Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Nous lisons dans 1 Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 42. Jusqu'au verset 50. 1 Corinthiens 15, verset 42, il est écrit. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semés corruptibles, on ressuscite incorruptibles. Semés méprisables, on ressuscite glorieux. Semés pleins de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semés corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas de l'incorruptibilité. Avec Dieu, pas de mélange, c'est soit l'un ou soit l'autre. Mais il y a une croissance. Il y a une marche en avant. Nous n'arrivons pas au sommet du premier coup. Il y a tout un cheminement, tout un pèlerinage, si je puis dire, qui va nous conduire, si nous sommes dans l'obéissance et que nous plaçons les priorités là où elles doivent être, qui nous conduira ce pèlerinage jusqu'en vie éternelle. D'abord le charnel, d'abord le physique, après le spirituel. Il doit y avoir une croissance continuelle. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel ou corps animal, comme il est dit ailleurs, on ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel et il y a aussi un corps spirituel. Nous allons et nous touchons aujourd'hui encore de ces vérités, ces vérités profondes de la parole de Dieu. Depuis plusieurs dimanches, nous sommes toujours sur ce thème du retour de Christ et du changement et du bouleversement qu'il va opérer bientôt. Car nous l'attendons, il reviendra. Ce monde ne va pas continuer à poursuivre son cours tel qu'il le fait aujourd'hui. Heureusement, où allons-nous dans notre monde? Où allons-nous dans cette dégradation morale et spirituelle de l'humanité, de cet être qui avait été créé à l'image de Dieu, mais qui aujourd'hui est plutôt à l'image de Satan qu'à l'image de Dieu? Il est temps qu'aujourd'hui, il y ait un changement, et ce changement vient. Car notre roi revient. Il revient bientôt. Il est parlé dans ces passages du corps. Et c'est de cela que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui. Tous, en naissant ici-bas, nous avons hérité d'un corps physique, d'un corps matériel, d'un corps de chair et de sang. Maintenu tous ensemble par une charpente osseuse appelée squelette. C'est là que tout commence. Tout a commencé. Nous avons commencé à exister alors que personne ne savait que nous allions exister. En ce jour, deux petites cellules se sont rencontrées. Une cellule mâle et une cellule femelle. Et le miracle s'est produit. Un être est en préparation pour rentrer dans le monde. Par un processus extraordinaire et merveilleux, ces cellules se sont multipliées les unes les autres. Chacun, chacune selon un programme bien défini et préparé par Dieu. Dire qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, quelle sottise. Quelle sottise. Par hasard, donc, moi je dis qu'il faut une foi bien plus grande pour croire à un tel hasard que pour croire à un Dieu créateur. Je crois à un Dieu créateur qui a programmé ces choses-là. Et rapidement, ces cellules se sont développées selon un programme bien précis, selon une organisation extraordinaire et merveilleuse. Cet ensemble d'équilibre et d'organisation extraordinaire, de cellules hautement spécialisées, faisant partie, chacune d'elles, d'un ensemble cohérent et merveilleux qui est notre corps. N'est-ce pas une machine extraordinaire que ce corps? Extraordinaire! Tous ces muscles, toutes ces cellules qui travaillent, ce sang qui circule et qui amène la nourriture. Et ce cerveau, cet ordinateur complexe et supérieur. Toutes ces neurones, tous ces circuits électriques qui passent. Alors que je parle ici, il y a tout un système qui se met en marche dans mon cerveau, dans les neurones, dans la mémoire et tout cela, complexe. Aucun homme ne peut faire une telle chose. L'homme peut fabriquer des ordinateurs, mais ces ordinateurs sont stupides. Il y a certaines fois, quand je travaille à mon ordinateur, je lui dis, mais tu es stupide, tu n'es pas capable de faire quelque chose sans que je te le commande. C'est un robot. Mais l'homme n'est pas un robot. L'homme, c'est pas un robot. Dieu a mis en lui quelque chose de spécial. L'homme n'a rien inventé, rien, vous m'entendez? Il a seulement découvert, essayé d'adapter, c'est tout. Il essaye d'adapter de façon bien grossière, avec les années il se perfectionne, d'accord, parce que Dieu lui a donné un ordinateur extraordinaire là. Mais reconnaissons Dieu dans toutes ses voies. Quel artiste que ce Dieu, quel artiste. Il a formé ce corps, un ensemble extraordinaire. Chimique, mécanique, tout y est là, tout. L'électronique est là-dedans. L'homme n'a rien inventé. Et c'est un ensemble cohérent, merveilleux, qui sert à communiquer avec le monde extérieur. C'est comme une maison, oui, c'est une maison. Cette maison est habitée par notre véritable nous-mêmes. Le véritable moi-même, vous le voyez pas, il est caché là dans cette maison. Le véritable moi-même, c'est une partie cachée qu'on ne voit pas et qui est l'âme. L'âme est l'esprit. L'âme, c'est la vie. L'âme est dans le sang, dit la parole de Dieu. Un homme qui saigne, il peut saigner à mort parce que la vie est dans le sang. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie. Il y a le sang, il y a la vie. Voilà. L'âme, c'est la vie elle-même. C'est pour cela que la parole de Dieu nous exhorte à respecter la vie, à ne pas boire le sang, à ne pas consommer du sang. Car le sang, c'est la base même de la vie. Et ça, c'est un des seuls commandements qui était dans l'Ancien Testament et qui est resté jusque dans le Nouveau Testament. Parce que le sang, c'est le symbole de la vie. Mais dans cet ensemble merveilleux, dans cette mécanique électronique et tout ce que vous voulez, il y a un esprit éternel. C'est une maison qui est habitée, voilà, c'est tout. Une maison extraordinaire qui est habitée. Mais voilà que cette merveille du plus grand artiste que l'univers n'ait jamais connu, cette merveille formée de ses mains par son intelligence et sa sagesse. Cet ensemble, cette usine merveilleuse, est marquée par le péché. À tel point que Dieu ne veut pas le voir et veut qu'il disparaisse, ce corps. Dieu veut qu'il disparaisse. Poussière, tu es poussière, à la poussière tu retourneras. Lorsque l'homme a violé les commandements de Dieu et que le péché est rentré dans son corps, il est retourné à la poussière. C'est par le corps que le péché est rentré dans ce monde. C'est par le corps et c'est par la chair que le péché est entré dans ce monde. C'est pour cela que Dieu ne peut plus voir ce corps et que ce corps de chair ne pourra jamais voir Dieu. Dieu veut l'éliminer. Il n'est bon que pour le court temps que nous sommes ici-bas sur cette terre. Il n'a pas d'autre destinée que le retour à la poussière. Voilà. Pendant ce court temps que nous sommes ici-bas sur cette terre, nous devons chercher Dieu. C'est une école. Nous devons reconnaître Dieu. Ce temps passe très vite, très vite. Malgré qu'il est une machine merveilleuse, ce corps, il est pollué et détruit par un élément indépendant de Dieu, que Dieu n'a pas voulu, le péché. C'est pour cela qu'il le rejette, ce corps. Il le rejette et il n'en veut plus. Et qu'il nous dit qu'il nous donnera un nouveau corps. Pour nous, nous savons que nous sommes dans ce corps pour un peu de temps. Il n'y a pas un homme ici-bas sur la terre qui un jour ne va pas disparaître. C'est-à-dire, pour qui cette maison dans laquelle il habite ne va pas retourner à la poussière. Voilà. Cette merveille que Dieu a créée, qui a été polluée par Satan. Parce que l'homme qui avait été créé absolument libre, avec un libre choix, a choisi de désobéir. Mais pour nous sauver, il a pris un corps tel que le nôtre. Voilà. Dieu s'est incarné dans un corps. Et quand il s'est incarné dans un corps, il s'est identifié au plus humble d'entre nous. Il avait dit dans le jardin d'Éden, la semence de la femme t'écrasera la tête. Voilà ce qu'il avait dit au serpent. Il est né par un acte du Saint-Esprit d'une femme. Il est venu et il a grandi dans un corps tel que le nôtre depuis tout petit. Et c'est dans son corps qu'il a porté les péchés de l'humanité, car il n'avait point péché. Et c'est dans le corps de la chair, ce corps maudit, qu'il a été maudit lui-même, car portant le péché du monde entier, mon péché, ton péché. Et il a cloué sur le bois de la croix le péché dans le corps de la chair. Jésus, c'est extraordinaire. Cela me dépasse. L'histoire du monde arrive à son terme. Nous savons, et nous connaissons très bien en nous-mêmes, dans nos cœurs, dans nos âmes, il suffit que nous lisions quelque peu la parole de Dieu pour savoir que nous arrivons à la fin. L'histoire du monde arrive à son terme. Dieu lui-même a donné le pouvoir, l'autorité à l'homme pour se conduire et pour gérer ce monde. Nous lisons que lorsqu'il a placé Adam dans le jardin d'Éden, il lui a donné autorité. Tu domineras, voilà ce qu'il a dit. Tu domineras sur la nature, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, sur les poissons de la mer. Tu domineras, tu cultiveras le sol. Tu en mangeras les fruits. Tu mangeras de tous les fruits du jardin, sauf d'un arbre, un seul. Celui-là est à moi, tu n'en manges pas. C'est la connaissance du bien et du mal. Mais tout le reste, tu peux en manger. Tu domineras. Tu géreras ce monde et tu pourras en tirer ta subsistance comme tu le veux. Si l'histoire de l'homme arrive à son terme, elle arrive aussi à son apogée par le retour du Seigneur de gloire sur la terre, car il va revenir, comme il nous l'a dit. Tout l'incompréhensible de nos vies terrestres s'expliquera alors. Toute l'énigme du problème, du mal et de la mort sera alors déchiffrée et résolue pour toujours. Déjà l'apôtre, par une révélation divine, nous donne espoir et nous stimule dans notre foi. Et il nous dit, le corps est semé corruptible. Il ressuscitera incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscitera glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscitera plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscitera corps spirituel. Alléluia. Corps spirituel. C'est vrai, quand on dit corps animal, ça peut-être choquer quelques-uns, mais enfin, Quelle différence y a-t-il dans le fond? Un animal, évidemment son squelette est différent, mais c'est quand même des os comme les nôtres. Et puis il a un sang, un système sanguin, et il a des muscles, il a un cerveau. Oh bien sûr, son ordinateur n'est pas supérieur comme le nôtre. Nous avons un ordinateur supérieur, nous. Nous avons beaucoup plus qu'un animal. Mais la base même de ce corps, il est animal. Quand la vie n'y est plus, il retourne à la poussière comme l'animal. Un corps animal et du reste. Il y a des hommes dans leur comportement qui sont arrivés au niveau de l'animal, n'est-il pas vrai? Et même il arrive que des hommes fassent ce que des animaux ne font pas. Quand on voit l'aberration de notre monde aujourd'hui, particulièrement de notre monde qu'on dit être éclairé, qu'on dit d'être civilisé, qu'on dit même être christianisé, nous retournons au paganisme le plus abject. Seigneur, pardonne-nous. Nous t'avons rejeté. Et à cause de cela, nous tombons dans la laideur la plus animale possible. Quand on voit toutes les dégradations de cette humanité aujourd'hui, l'homosexualité qui se promène rampante partout, quand on voit cette dégradation, ce déséquilibre dans la société, dans la violence et la débauche sous toutes ses formes les plus abjectes, nous sommes descendus plus bas que l'animal. Même nos enfants ne sont plus en sécurité maintenant. Des hommes tombés plus bas que l'animal les convoitent pour détruire leur petite vie. On le voit dans les journaux, dans les médias, partout. L'homme est descendu plus bas que l'animal. Il se détruit lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé Dieu. Il a violé ses commandements. Le corps animal. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le corps du péché, dit la Bible. C'est par le corps de la chair que l'ennemi Satan nous a traînés dans la boue et nous a mis sous la malédiction du péché. Le péché, il rentre toujours à travers le corps. Il rentre toujours à travers le corps. À travers les yeux. Les yeux sont la fenêtre du corps. Les oreilles, les sensations, le toucher, le goût. Voilà là, les fenêtres de la maison dans laquelle nous habitons. Notre âme, notre esprit habite dans cette maison. Et il y en a beaucoup qui ont ces fenêtres grandes ouvertes. Et ils ne font aucune sélection. Ils laissent tout rentrer, tout rentrer. Toutes les saletés, toutes les pollutions, toutes les histoires qu'on raconte. Ils laissent rentrer cela. Et ils se laissent polluer à l'intérieur. C'est vrai que nous sommes agressés à tout moment dans ce monde par toutes sortes de choses vilaines. Mais comme je le dis souvent, ce n'est pas le premier regard qui est péché, c'est le second regard. Combien de fois nous sommes agressés, même sur les pages publicitaires, agressés à la télévision, agressés sans même qu'on le cherche, par toutes sortes de choses qui polluent la pensée et le cœur de l'homme. C'est vrai. Nous cheminons, nous marchons sur cette route, revêtu de cette robe blanche lavée dans le sang, mais combien souvent éclaboussé par les bouts de cette route que nous suivons jusque dans les parvis éternels. C'est pour cela que nous avons besoin à tout moment de revenir au pied du Seigneur, au pied de la croix, pour être lavé dans son sang, purifié tout à nouveau. Lavez votre robe dans le sang de l'agneau. C'est ce que la parole de Dieu nous exhorte combien de fois. Le faisons-nous? Nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste, qui intercède en notre faveur. Et chaque jour, nous avons besoin de revenir à ses pieds et de dire, Seigneur, lave-moi tout à nouveau. Tu connais les agressions dont j'ai fait l'objet aujourd'hui. Je n'ai pas cherché cette situation-là. Je n'ai pas cherché ces choses-là. Mais tu sais, mon corps de chair qui est vendu au péché est attiré par ces choses mauvaises. Par mes yeux, par mes oreilles, par mon toucher. Et immédiatement, lui, il veut ça. Mais je sais que ces choses sont mauvaises et qu'elles vont me détruire. Mon corps, il est accoutumé accoutumé à boire et à boire et à boire encore. Il réclame. Je sais que ça me détruit, mais je n'arrive pas, Seigneur. Mon corps est lié par ce tabac et cette nicotine qui demande et qui demande. Je sais que je me détruis. Je sais que je me détruis. Je le sais. Je veux en être délivré. Seigneur, ce corps, il ne veut que ce qui est mal. Je ne veux pas courir partout, coucher avec n'importe quelle fille ou n'importe quelques garçons, mais mon corps le réclame, il le réclame, il convoite celle-ci, il convoite celui-là, et puis juste, Satan s'arrange à ce qu'on se trouve quelque part seul, et mon corps réclame. Qui me délivrera de ce corps de chair? C'est ce que l'apôtre Paul disait. Qui? Je suis amorcé par le mal, et le mal est en moi, et le mal... Mon corps réclame ce mal, réclame cette chose qui me détruit, cette chose qui m'empoisonne, cette chose qui détruit cette maison dans laquelle j'habite et en même temps qui détruit celui qui habite dans cette maison. Nos fenêtres, les yeux, les oreilles, la bouche, le toucher, le corps du péché. C'est par le corps de la chair que l'ennemi Satan nous a traînés dans la boue et nous a mis sous la malédiction du péché. Par la convoitise des yeux, par l'ouïe, par les sens. Dans Genèse 3, 6, il est dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et propre à donner du discernement. » Voilà, elle vit. D'abord, elle a entendu. Elle a dialogué avec Satan, avec le serpent. Oh, quelle sottise, quelle sottise, quelle sottise. D'abord, l'ouïe. Ensuite, les yeux. Voilà comment le mal est rentré. Naïf comme tout. Et parce que ils ont convoité nos premiers parents, ils ont cru au mensonge, rejetant la parole de Dieu qui disait, « Vous n'en mangerez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Dieu l'avait dit, Dieu avait averti. C'est grave lorsqu'on rejette la parole de Dieu. Moi-même, en personne, je contemplerai Dieu. Et il insiste avec force et certitude en disant, c'est lui que moi, je contemplerai de mes yeux, que mes yeux verront, et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Ce sont mes yeux qui le verront. Job croyait à la résurrection. La véritable foi ne s'appuie pas sur les bénédictions de Dieu. Il y a des gens qui disent, oh moi je crois en Dieu, il m'a fait prospérer. Mes affaires marchent bien, je crois en Dieu. Et puis quand ça marche plus, les voilà qui abandonnent Dieu. Non, notre foi ne dépend pas des bénédictions de Dieu, ou ne dépend pas des circonstances personnelles, ou sur une réponse intellectuelle, ou une compréhension intellectuelle, ou sur une pseudo-prophétie. Notre foi en Dieu dépend sur une révélation de Dieu lui-même, en sa parole, appuyée sur sa parole. Dieu peut permettre que Satan nous éprouve, éprouve le juste pour un temps. Regardez pour Job, il est resté fidèle, Dieu l'a rétabli et lui a donné le double de ce qu'il avait perdu avant, le double. Satan peut éprouver le juste pour purifier sa foi et sa vie. Comme l'or est purifié par le feu. C'est ce que disait Job au chapitre 23, verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et il m'éprouve, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Paul, Pierre en parle lui-même dans sa première épître. Et il dit que notre foi est éprouvée comme l'or. Ne fuyez pas l'épreuve. Vous passez peut-être par l'épreuve, vous ne comprenez pas pourquoi. Je prie et Dieu ne me répond pas. Peu importe, Seigneur, je te servirai. Marthe avait cette espérance lorsqu'elle a dit dans Jean 11, 24, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour », lorsqu'elle parlait de son frère. Une perspective magnifique nous est offerte dans les Écritures en ce qui concerne la résurrection des corps à son avènement. Job croyait à la résurrection. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre, a-t-il dit. après la résurrection, il apparaît aux disciples, Jésus. Il apparaît aux disciples qui étaient effrayés, qui croyaient voir un esprit. Il leur dit, dans Luc 24, 39, « Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est moi. Touchez-moi et croyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Oh, c'est qui ça? C'est Jésus qui vient d'être ressuscité. Et il est arrivé alors que toutes les portes sont fermées. C'est pas vrai? Ils ont peur. Ils croient sur... Ils disent, non, non, touchez-moi, touchez-moi. Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez. Ah donc, ce nouveau corps a une chair et a des os. Il n'a pas parlé de sang. Il a versé son sang. Et moi, je crois que ce nouveau corps n'aura pas de sang. C'est un corps nouveau. Il parle d'un nouveau corps, une autre structure, une chair différente, une charpente osseuse, peut-être c'est pas osseux, différent. Pas de sang. Voilà de quoi Job voulait parler. De ce corps de la résurrection. Un corps! Voilà ce qui nous attend. Ce corps de chair va disparaître. Le péché est là-dedans. Il va nous donner un nouveau corps. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, avec ce nouveau corps de la résurrection. Et nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est ce que nous dit Paul. On en a parlé dimanche dernier. La résurrection des corps. Cela se passera à l'avènement du Seigneur. Nous pouvons nous figurer notre merveilleux héritage et comprendre comment le corps, ce compagnon de nos souffrances et de nos maladies, de notre mort, sera lui aussi merveilleusement glorifié. C'est l'encouragement que Paul nous donne dans Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, où il dit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera, vous voyez, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, ce corps dont je viens de parler, de sa gloire quand il est sorti du tombeau, semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous ressusciterons donc, et cette espérance a son appui sur la résurrection de Jésus-Christ. Notre corps sera rendu semblable au corps de sa gloire. C'est ce qu'il nous dit. La résurrection de Christ est la clé de voûte de toute la doctrine du Nouveau Testament. Car si Christ n'est pas ressuscité, tout s'effondre et tout s'arrête à Golgotha. Tout n'est alors que faillite et personne n'est sauvé si Christ n'est pas ressuscité. Regardez dans 1 Corinthiens 15, 16 à 20. Ce que l'apôtre disait lui-même, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est-à-dire le premier. Le premier revenu à la vie, l'espoir, la promesse pour ceux qui le suivront. Nous verrons Dieu dans notre chair, glorifié avec nos yeux, comme dit Job, dans cette nouvelle nature. Nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons dans sa gloire, nous le verrons dans sa majesté, nous le verrons dans sa splendeur, nous le verrons dans sa sainteté. Nos yeux et non pas ceux d'un autre. Et nous disons comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le verrai. Devrais-je passer par le tombeau? Peu importe. Mes yeux le verront. Et non pas ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je le verrai. Et il me sera favorable. Pourquoi? Je me suis mis en règle avec lui. Je suis né de nouveau. Il me fera faveur à cause de Jésus qui s'est donné pour moi et en qui j'ai cru. Nos corps seront changés. Le corps est un outil, un instrument que Dieu nous a donné pour communiquer avec le monde extérieur. Ce corps est taré. Il est amoindri. Il est détruit par le péché. Le péché qui nous donne la mort. Mais Christ a porté le péché dans son corps tel que le nôtre. Il est mort. Il est ressuscité avec un nouveau corps comme prémisse de la résurrection qui nous est promise à tous par lui. Avec ce nouveau corps glorifié qu'il nous a promis. Et pour terminer, ce verset d'Ésaïe 26-19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car la rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Alléluia. Baissons la tête. Seigneur mon Dieu, merci pour l'espérance qui est devant nous. Une espérance merveilleuse, une espérance glorieuse, l'espérance de la résurrection. Nous sommes tellement liés par nos passions et par nos désirs, les désirs qui sont dans notre corps, les désirs de tout genre qui nous amorcent et qui nous appellent à violer tes commandements, à violer ta loi. Nous nous laissons aller, Seigneur, par nos passions et nous nous détruisons nous-mêmes. C'est vrai, Seigneur, nous sommes dans ce corps de chair. Tu nous as sauvés, merci Seigneur, mais donne-nous Seigneur de le dominer ce corps, que l'homme nouveau, que l'homme changé, que l'homme né de nouveau, Seigneur, prenne le contrôle de cet homme de chair qui veut ce qui le détruit. Oh mon Dieu, nous faisons appel à ta grâce, veuille nous aider. Vous avez entendu ce message ce matin, êtes-vous né de nouveau? Avez-vous commencé à vivre? Vous êtes né une première fois dans le corps de la chair. Ça, c'est le point de départ. Mais maintenant, après le corps de chair, il y a le corps spirituel. Et ce corps spirituel, il commence déjà par la nouvelle naissance. Ceux qui sont nés de nouveau ressusciteront et hériteront de ce corps nouveau. Êtes-vous né de nouveau? Si vous n'êtes pas né de nouveau, levez-vous là où vous êtes, qui que vous soyez. Levez-vous et aujourd'hui vous pouvez naître de nouveau en acceptant Jésus comme votre sauveur. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres encore? Naître de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Naître de nouveau. Ça c'est la première des choses. Vous êtes né une première fois, c'est pour cela que vous êtes ici, dans un corps de chair où le péché habite, dans un corps de chair qui désire pécher. Qui désire pécher. Maintenant, pour entrer dans cette nouvelle dimension, il faut la naissance nouvelle. C'est ce que Jésus disait à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Y en a-t-il d'autres encore? Naître de nouveau. Une nouvelle vie. Oh, ce corps, il faut qu'il soit jugulé. Il faut qu'il soit cloué au bois de la croix et que l'homme nouveau prenne la place. Seigneur mon Dieu, tu vois ces quelques hommes et femmes qui se sont levés dans ce lieu. Je te prie, Seigneur, de leur accorder la nouvelle naissance, de leur accorder la nouvelle vie, Seigneur. Et alors, pour eux, il y a l'espoir de l'éternité. L'espoir de l'éternité que tu veux donner à tous ceux qui ont cru. Seigneur, Seigneur.